Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 7 millions de personnes qui agissent pour le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Nous agissons dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Solidarité, impartialité, indépendance sont nos grands principes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce rendez-vous avec Amnesty International. Je suis en compagnie de Dominique Duranton, Dominique Damien et Sabine Kieffer. Aujourd'hui, un rendez-vous est proposé à propos des droits des manifestés. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pourquoi le droit de manifester ? On peut rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 affirme que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Le droit de manifester est essentiel pour exercer sa liberté d'expression et parce que aussi ces manifestations permettent de défendre tous les autres droits.
Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même.
Il est important pour la population de pouvoir participer à des mouvements sociaux, d'assister à des rassemblements pacifiques et d'agir collectivement. Non seulement pour exprimer son désaccord avec les politiques publiques et les pratiques de l'État, mais aussi pour lutter contre l'injustice et exiger le respect des droits humains. Alors, il y a une particularité, il y a le droit français d'un côté et le droit international de l'autre, sachant qu'Amnesty se base sur le droit international. En France, il faut, pour avoir le droit de manifester, il faut établir une déclaration préalable. Tout cortège, tout défilé, tout rassemblement de personnes et d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation d'une déclaration préalable en France. Par contre, pour le droit international, le droit de manifester ne devrait pas être soumis à une autorisation préalable. Les manifestations publiques sont donc présumées légales pour le droit international. En France, on joue sur les mots. Demander une autorisation pour manifester, c'est un effet trop dissuasif. Et ça limite l'exercice de la liberté fondamentale.
Nos dirigeants sont des menteurs.
Donc ça, c'est une première contradiction en France. Il est admis que les États prennent des lois qui encadrent le droit de manifester et demandent aux organisateurs de déclarer à l'avance les manifestations sur la voie publique. Ça, c'est admis. Par contre... En France, oui, c'est de toute façon, s'il n'y a pas de déclaration de fait, c'est considéré comme illégal. Voilà, ça c'est... Voilà. Alors après, il y a aussi un point important en France, c'est les forces de l'ordre et les autorités judiciaires françaises ont instrumentalisé le droit pénal. Elles se sont appuyées sur des lois qui sont très générales pour arrêter et poursuivre des milliers de manifestants qui ont été pris dans un étau judiciaire. Par exemple, des manifestants ont été arrêtés et poursuivis alors qu'ils ne devaient... Ils ont été même... plus que poursuivis, alors qu'on leur garantissait pas les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Lorsqu'on porte des lunettes ou un masque pour se protéger des gaz lacrymogènes, on peut considérer que c'est une faute et que ça va au pénal quand même en ce moment en France. La loi anti-casseurs interdit de dissimuler le visage en manifestation sans motif légitime. C'est trop large, c'est trop général, c'est pas nécessaire et c'est pas proportionné.
Thank you.
peut notamment se protéger le visage et particulièrement les yeux des gaz et projectiles. C'est pas seulement légitime, c'est nécessaire. Ou bien aussi, on a aussi le droit de dissimuler son visage pour ne pas être filmé. Ou parce qu'on veut se protéger d'un virus. Pour le droit international, le droit de manifester est un droit fondamental lié à la liberté d'expression et ça ne peut être limité que sous certaines conditions bien strictes prévues par la loi. Et ces restrictions ont pour objectif de protéger l'ordre ou la morale publique ou protéger les droits et les libertés d'autres personnes. Mais ça doit toujours être strictement nécessaire et proportionné. Maintenant, il y a aussi la loi sur l'outrage qui restreint la liberté d'expression. En droit français, il peut y avoir outrage envers un policier pour toute parole, geste ou écrit qui porte atteinte à la dignité ou au respect lié à sa fonction. C'est une définition très large qui laisse trop de place à l'interprétation et à l'arbitraire et aux abus. Il y a des personnes qui ont été poursuivies pour outrage parce qu'elles avaient par exemple manifesté contre la loi travail en disant, en déployant une bannière, oui au muguet, non au LBD. Elles ont été poursuivies. Le souci aussi dans le cas des délits d'outrage, c'est que ça peut être utilisé par des policiers qui sont accusés de violences policières. On peut craindre qu'effectivement ça leur permette d'intimider les victimes ou les témoins. Seuls les discours de provocation à la haine, la discrimination ou la violence justifient de telles restrictions à la liberté d'expression. Donc la loi française va trop loin. Les outrages à agents publics devraient être traités au civil et pas comme des infractions pénales. Ensuite, il y a la loi sur l'attroupement. Pour la loi française, tout rassemblement public susceptible de troubler l'ordre public est passible de sanctions. C'est le délit d'attroupement. Les autorités peuvent donc poursuivre des manifestants si elles ont l'impression qu'ils avaient eu l'intention de troubler l'ordre public. Donc un simple risque, c'est tout de suite pénalisé. Il y a eu pas mal de condamnations en 2019 pour ça aussi. On essaye toujours de faire le parallèle droit français et droit international. La loi ne devrait sanctionner que les rassemblements qui menacent réellement l'ordre public et pas ceux qui sont considérés comme susceptibles de le faire. Ensuite, il y a un point très important. Les autorités judiciaires ont parfois restreint le droit à la liberté de réunion pacifique de certaines personnes avant les manifestations, en leur imposant des obligations de contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès. Donc ça leur interdisait de manifester ou ça limitait leur droit de circuler librement pour des personnes qui avaient été reconnues non coupables pour des actes non violents. Hein, voilà. Ensuite, pour corser un peu le tout, il y a eu la pandémie du Covid-19 qui a pas mal bouleversé nos vies quotidiennes. Alors, la lutte contre la pandémie peut justifier des restrictions de droits humains, parmi lesquelles le droit de réunion pacifique. Bon, mais pendant le confinement, des commerces sont fermés, le droit de circuler librement est restreint afin d'enrayer la propagation d'une maladie extrêmement contagieuse. On peut considérer que ce sont des mesures raisonnables. Mais cela ne doit pas donner carte blanche pour œuvrer, pour mettre en œuvre des restrictions excessives et disproportionnées. Il faut toujours penser à évaluer et justifier. En fait, le 16 mars 2020, le gouvernement français a adopté des mesures de confinement, dont certaines dispositions restreignaient le droit à la liberté de réunion et le droit de circuler librement. Le Parlement a également déclaré l'état d'urgence sanitaire qui est resté en vigueur jusqu'au 10 juillet. Alors le gouvernement a assoupli quelques mesures le 11 mai, mais l'interdiction de tout rassemblement public de plus de 10 personnes est restée en vigueur. Alors que, on pouvait très bien se retrouver à plus de 10 personnes dans les transports publics, dans les magasins, dans les lieux ouverts au public. Donc cette interdiction, elle fut annulée par le Conseil d'État le 13 juin. On peut penser que l'intention du gouvernement était de toute évidence de faire taire les manifestants, et non de protéger la santé publique. Et bien sûr, il y a eu des verbalisations. En principe, toute interdiction générale des manifestations doit être exclue et chaque réunion publique doit être évaluée au cas par cas. Les autorités françaises devraient aussi immédiatement abroger ou modifier toutes les dispositions pénales contraires au droit international relatif aux droits humains portant sur la liberté de réunion pacifique. Et l'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ne devrait pas être considéré comme des infractions pénales. Pareil pour la loi interdisant la dissimulation des visages lors de rassemblements. Et de manière plus générale, tout ce qui est contraire au droit international relatif aux droits humains.
Sabine, est-ce que tu nous as préparé une bonne nouvelle ?
La bonne nouvelle, c'est au Nigeria. Maurice Fagnon, défenseur des droits humains, a été accusé d'avoir transmis de fausses informations à la police alors qu'il demandait simplement justice après les attaques menées par les autorités en 2016 contre la communauté Otobo Kgbam. Attaques au cours desquelles 30 000 personnes avaient été contraintes de quitter leur foyer. Toutes les maisons avaient été détruites ou brûlées, puisque la famille royale revendiquait le terrain. Le 3 décembre dernier, après 5 ans de retard, d'ajournement, le tribunal a abandonné les charges retenues contre Maurice Fagnon. Voilà, c'était la bonne nouvelle au Nigeria.
Vous êtes toujours sur Radio Assivière, vous écoutez le rendez-vous avec Amnesty International. Nous sommes en compagnie de Dominique Duranton, Dominique Damien, Sabine Kieffer et on vous souhaite une belle écoute. Merci à vous trois d'être venus aujourd'hui au studio des Royères.
Le groupe Creuse, Amnesty International, c'est au 05 55 64 26 84. Ou alors creuse@amnestyfrance.fr et puis on se bat ensemble et on gagne ensemble.